Quatrième partie, repenser les dimensions du conflit politique. Chapitre 14. La frontière et la propriété, la construction de l'égalité. Nous avons étudié dans les trois premières parties de ce livre les transformations des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu'aux sociétés hypercapitalistes et post-communistes actuelles, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, social-démocrates et communistes. J'ai notamment insisté sur les dimensions politico-idéologiques de ces évolutions. Chaque régime inégalitaire repose au fond sur une théorie de la justice. Les inégalités doivent être justifiées et s'appuyer sur une vision plausible et cohérente de l'organisation sociale et politique idéale. Dans toutes les sociétés, cela implique de régler une série de questions conceptuelles et pratiques concernant les frontières de la communauté, l'organisation des rapports de propriété, ainsi que l'accès à l'éducation et la répartition de l'impôt. Les réponses apportées par les sociétés du passé avaient leur fragilité. Pour la plupart, elles n'ont pas résisté au temps et ont été remplacées par d'autres. On aurait tort cependant de s'imaginer que les idéologies du présent, fondées notamment sur diverses formes de sacralisation de l'opacité financière et de la fortune méritée, soient moins folles ou plus durables. À l'âge de la démocratie électorale et du suffrage universel, les conflits politico-idéologiques autour de la justice sociale et de l'économie juste continuent de s'exprimer dans les manifestations et les révolutions, dans les brochures et dans les livres. Mais ils s'expriment également dans les urnes, au travers des partis et des coalitions politiques auxquelles les uns et les autres accordent leur suffrage, en fonction notamment de leur propre vision du monde et de leur position socio-économique individuelle. Certains choisissent également de ne pas voter, ce qui est en soi informatif. Dans tous les cas, ces opérations électorales laissent des traces au sujet des croyances politiques et de leur évolution. Des traces qui sont certes imparfaites et complexes à interpréter, mais qui sont néanmoins plus riches et systématiques que dans les sociétés non électorales. Ce sont ces traces que nous allons étudier dans cette quatrième partie. En particulier, nous allons analyser la façon dont la structure classiste des clivages politiques et électoraux s'est radicalement transformée entre l'âge social-démocrate des années 1950-1980 et celui de la mondialisation hypercapitaliste et postcoloniale des années 1990-2020. Au cours de la première période, les classes populaires se reconnaissaient dans les divers partis socialistes, communistes, travaillistes, démocrates et sociodémocrates composant la gauche électorale de l'époque. Ce n'est plus le cas au cours de la seconde période, où ces partis et mouvements politiques sont devenus le parti des plus diplômés et sont parfois en passe de devenir le parti des plus hauts revenus et patrimoines. Cette évolution témoigne notamment de l'échec de la coalition social-démocrate de l'après-guerre à renouveler sa plateforme programmatique, en particulier sur les questions fiscales, éducatives et internationales. Ces transformations montrent également que la constitution d'une coalition égalitaire est le fruit d'une construction politico-idéologique complexe. L'électorat est toujours traversé par un grand nombre de clivages sociaux et idéologiques, à commencer par les conflits au sujet de la frontière et de la propriété, et seuls des processus socio-historiques et politico-idéologiques spécifiques peuvent permettre de les dépasser et d'unir dans une même coalition les classes populaires issues de différentes trajectoires et origines, urbaines et rurales, salariées et non salariées, nationales et étrangères, et ainsi de suite. Nous allons commencer par étudier dans ce chapitre le cas de la France. Nous étendrons ensuite l'analyse dans les chapitres suivants aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis aux autres démocraties électorales occidentales et est-européennes, ainsi qu'à plusieurs démocraties électorales non occidentales comme l'Inde et le Brésil. La comparaison de ces différentes trajectoires nous permettra de mieux comprendre les raisons de ces transformations et leurs possibles dynamiques futures. Nous tenterons d'analyser à quelles conditions il est possible de dépasser le redoutable piège social nativiste qui se dessine en ce début de XXIe siècle, conséquence à la fois de la désillusion post-communiste, d'une réflexion insuffisante sur l'organisation de la mondialisation et du difficile apprentissage post-colonial de la diversité. Nous verrons ensuite dans quelle mesure il est possible de dessiner les contours d'une forme de social-fédéralisme et de socialisme participatif permettant de faire face à cette nouvelle menace identitaire. Déconstruire la gauche et la droite, les dimensions du conflit sociopolitique. Il existe de multiples raisons pour lesquelles les clivages électoraux et politiques ne peuvent jamais se réduire à un conflit unidimensionnel, qui opposerait par exemple les pauvres et les riches. Tout d'abord, le conflit politique est avant tout idéologique et non classiste. Il oppose des visions du monde, des systèmes de croyance au sujet de la société juste, des processus de mobilisation collective qui ne peuvent être réduits aux caractéristiques socio-économiques individuelles ou à la classe sociale de chacun. Pour des attributs individuels donnés, il existera toujours une grande diversité d'opinions possibles, en fonction des trajectoires familiales et personnelles, des rencontres et des échanges, des lectures, des réflexions et des cheminements propres à chaque subjectivité. La question de l'organisation idéale de la société est trop incertaine pour qu'il puisse exister une relation déterministe entre la position de classe et les croyances politiques. Il ne s'agit certes pas de relativiser ici toutes les croyances. Je suis au contraire convaincu qu'il est possible de mobiliser les leçons de l'histoire et de comparer minutieusement les différentes expériences historiques pour mieux appréhender les contours du régime de propriété idéal ou du régime fiscal ou éducatif idéal. Simplement, ces questions sont tellement complexes que seule une vaste délibération collective peut permettre d'espérer des progrès réels et durables en s'appuyant sur la diversité des expériences individuelles et des représentations de la société juste que l'on ne peut jamais réduire à la position de classe. Surtout, la façon dont les organisations collectives, partis et mouvements politiques, syndicats, associations de diverses natures, traduisent ces représentations et ces aspirations à l'égalité et à l'émancipation en plateforme programmatique joue un rôle crucial pour déterminer les différentes formes d'adhésion individuelle et d'engagement politique. Ensuite, la notion de classe sociale doit elle-même être envisagée comme une notion profondément multidimensionnelle. Elle met d'abord en jeu tout ce qui concerne la profession, le secteur et le statut d'activité, le salaire ou les autres formes de revenus du travail, les qualifications, l'identité professionnelle, la position de direction ou d'encadrement, la possibilité de participer aux décisions et à l'organisation de la production. Elle comprend également le niveau de formation et de diplôme qui conditionne en partie l'accès aux professions, les formes de la participation politique et des interactions sociales et qui contribue à déterminer avec les réseaux familiaux et personnels le capital culturel et symbolique individuel. Enfin, la classe sociale est étroitement déterminée par la propriété. Aujourd'hui comme hier, la détention d'un patrimoine immobilier, professionnel ou financier, a des conséquences multiples. Elle implique, par exemple, que certains doivent verser pendant leur vie entière une part importante de leur salaire sous forme de loyer, alors que d'autres perçoivent des loyers. Au-delà de son impact sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter les biens et services produits par les uns et les autres, et donc de disposer du temps des autres, ce qui n'a rien de négligeable, la propriété est également un déterminant du pouvoir social en général. Elle a par exemple un impact direct sur la capacité à créer une entreprise et à mettre d'autres personnes au service de son projet dans le cadre de relations fortement hiérarchisées et asymétriques. Elle donne également la possibilité de soutenir les projets des autres et parfois d'avoir une influence particulière sur la vie politique, notamment au travers du financement de partis ou de médias d'information. Outre la profession, le diplôme et la propriété, la classe sociale à laquelle chacun s'identifie peut également être déterminée par l'âge, le genre, les origines nationales ou ethniques, ou perçues comme telles, et les orientations religieuses, philosophiques, alimentaires ou sexuelles. La position de classe se caractérise aussi par le niveau de revenu, qui est un attribut particulièrement complexe et composite puisqu'il dépend de toutes les autres dimensions. En particulier, le revenu comprend les revenus du travail, salaires et autres revenus d'activité, et du capital, loyer, intérêts, dividendes, plus-value, profit, etc. Il dépend donc à la fois de la profession, du niveau d'éducation et de l'ampleur du patrimoine, d'autant plus que la détention patrimoniale contribue à déterminer l'accès à certaines activités professionnelles, et donc aux revenus du travail, à la fois par la possibilité de financer une formation ou un investissement professionnel. Nous allons voir que cette multidimensionnalité des clivages sociaux est essentielle pour comprendre la structure et l'évolution des clivages politiques et électoraux. Si l'on examine tout d'abord la répartition des votes à l'âge social-démocrate, c'est-à-dire approximativement la période 1950-1980, on constate dans tous les pays occidentaux que les différentes dimensions des clivages sociaux étaient politiquement alignées. Autrement dit, les personnes qui occupaient des positions moins élevées dans la hiérarchie sociale avaient tendance à voter pour les partis et mouvements socialistes, communistes, démocrates et sociaux-démocrates au sens large, quelle que soit la dimension considérée, diplôme, revenu ou patrimoine. Et le fait d'être mal placé dans plusieurs dimensions produisait des effets cumulatifs sur le vote. Ceci était vrai non seulement pour ce qui concerne les partis explicitement sociaux-démocrates, comme le SPD allemand ou le SAP suédois, mais également pour le vote pour le Parti travailliste au Royaume-Uni, le Parti démocrate aux États-Unis ou les partis de gauche de diverses dénominations, socialistes, communistes, radicaux, écologistes, dans les pays où ces mouvements étaient historiquement divisés en plusieurs structures partisanes, comme en France. Le mot « gauche » est ici utilisé pour se référer à des partis qui utilisent ce terme pour se désigner eux-mêmes et en aucune façon comme une essence supposée éternelle et inaltérable, j'y reviendrai. À l'inverse, le vote pour le Parti républicain aux États-Unis, le Parti conservateur au Royaume-Uni, où les divers partis de centre-droit et de droite dans les autres pays étaient plus importants parmi les plus diplômés comme parmi les plus hauts revenus et patrimoines, avec des effets cumulatifs pour les électeurs haut placés sur chaque dimension. La structure du conflit politique en vigueur au cours des années 1950-1980 était classiste, dans le sens où il opposait les classes sociales les plus modestes aux classes sociales les plus élevées, quelle que soit la dimension retenue pour définir l'identité de classe. À l'inverse, le conflit politique des années 1990-2020 s'apparente à un système d'élites multiples, dans le sens où l'une des coalitions s'appuie sur les plus diplômés, alors que l'autre s'appuie sur les hauts revenus et patrimoines, de moins en moins nettement, il est vrai, à mesure que les élites transitent vers la première coalition. On notera également que l'on observe dans tous les pays à l'âge classiste une gradation très nette dans l'ampleur des clivages politiques associés aux différentes dimensions de la stratification sociale. La propriété est la dimension la plus clivante. Les personnes qui ne possèdent rien votent massivement pour les partis sociaux-démocrates ou équivalents, et à l'inverse, ceux qui possèdent beaucoup votent très rarement pour eux. Le diplôme a un effet qui va dans le même sens que la propriété au cours de la période 1950-1980, mais qui est nettement moins prononcé. Les personnes moins diplômées votent plus souvent pour les partis sociaux-démocrates ou équivalents, et inversement pour les personnes plus diplômées. Mais l'écart est plus réduit que pour la propriété. Quant au niveau de revenus, il est assez logiquement dans une position intermédiaire, moins clivant que l'ampleur de la propriété, mais plus clivant que le niveau de diplôme. Cette gradation dans le degré de politisation des différents clivages sociaux s'illustre par exemple très clairement dans le cas de la France. Voir graphique 14.1 et se retrouve dans tous les autres pays étudiés. En ce qui concerne la France, si l'on examine le pourcentage d'électeurs votant pour les partis de gauche parmi les 10% des électeurs ayant les patrimoines les plus élevés et parmi les 90% les moins élevés, on constate au cours de la période 1950-1980 un écart très marqué de l'ordre de moins 25 points de pourcentage, ce qui est considérable. Considérons par exemple le cas de l'élection présidentielle de 1974. Au terme d'une campagne extrêmement serrée, dans un climat social en pleine ébullition, le candidat de l'Union de la gauche, Mitterrand, soutenu notamment par les partis socialistes et communistes, avait été battu de peu au second tour avec 49% des voix contre 51% pour son adversaire de droite, Giscard. Le score obtenu par Mitterrand parmi les 90% des électeurs les moins riches en termes de patrimoine avoisinait alors les 52% contre à peine 27% parmi les 10% les plus riches, d'où un écart de 25 points. Si l'on examine maintenant le pourcentage d'électeurs votant pour ces mêmes partis parmi les 10% des électeurs ayant les revenus les plus élevés et les 90% les moins élevés, on observe un écart généralement compris entre moins 10 et moins 15 points au cours de la période 1950-1980. Il s'agit d'un effet important dans l'absolu, néanmoins significativement plus faible que l'effet du patrimoine. La gauche électorale depuis 1945, du Parti des travailleurs au Parti des diplômés. Quant à l'effet du diplôme, il est extrêmement frappant de constater qu'il s'est totalement renversé au cours du temps. Dans les années 1950 et 1960, le vote pour les partis de gauche était nettement plus faible parmi les 10% des électeurs les plus diplômés que parmi les 90% les moins diplômés, avec un écart voisin de celui constaté pour le revenu. Puis cet écart s'est réduit régulièrement à partir de la fin des années 1960 et au cours des années 1970 et 1980 avant de changer de sens. À partir des années 1990 et 2000, le vote pour les partis de gauche est devenu significativement plus élevé parmi les 10% les plus diplômés qu'au sein des 90% les moins diplômés, avec de nouveau un écart de l'ordre de 10 à 15 points, mais dans l'autre sens. Pour résumer, dans l'après-guerre, la gauche électorale s'apparentait au parti des travailleurs, et en particulier des salariés peu diplômés. Au cours du dernier demi-siècle, elle est graduellement devenue le parti des diplômés, et notamment des cadres et des professions intellectuelles. Nous allons tenter dans ce chapitre et dans les suivants de documenter plus précisément cette transformation radicale, et surtout de mieux comprendre ses origines, sa signification et ses conséquences. À ce stade, plusieurs points importants méritent d'être précisés. Tout d'abord, nous retrouvons cette même structure fondamentale du conflit politique, avec une gradation identique entre les effets de la propriété, du revenu et de l'éducation, et cette même évolution depuis l'après-guerre dans l'ensemble des démocraties électorales occidentales, et en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède, avec des variantes que nous étudierons. Par exemple, si l'on examine entre 1980 et 2015 l'écart entre le vote pour le Parti démocrate parmi les 10% des électeurs les plus diplômés et parmi les 90% les moins diplômés aux États-Unis, on observe sensiblement la même évolution que pour le vote pour les partis de gauche en France. Voir graphique 14.2, à savoir une augmentation de l'écart de 10 à 15 points. Il en va de même pour le vote travailliste au Royaume-Uni. L'évolution britannique semble légèrement en retard sur les tendances observées en France et aux États-Unis, nous y reviendrons, mais pour finir, la transformation d'ensemble est identique. Après s'être longtemps défini comme le parti du travail et des travailleurs, le Labour est de facto devenu le parti des diplômés, qu'il parvient à séduire en plus grand nombre que les Tories. Même Michael Young, pourtant imaginatif dans son livre d'anticipation « The Rise of the Meritocracy », publié en 1958, n'avait pas été aussi loin dans ses prédictions. Il est particulièrement frappant de constater la similarité des évolutions observées aux États-Unis et en Europe, compte tenu du fait que les systèmes de partis ont des origines politico-idéologiques totalement différentes. Aux États-Unis, le Parti démocrate était le parti de l'esclavage et de la ségrégation avant de devenir celui du New Deal, de la réduction des inégalités socio-économiques et des droits civiques, le tout de façon graduelle et continue, sans rupture majeure, au terme d'une évolution qui débute dès les lendemains de la guerre civile. À l'inverse, en Europe, les partis considérés ici sont issus des diverses traditions et idéologies socialistes, communistes et social-démocrates, s'appuyant à des degrés divers sur la collectivisation des moyens de production dans des contextes socio-économiques où les clivages raciaux et ethniques étaient quasiment absents, tout du moins à l'intérieur des territoires européens. À l'intérieur de la scène européenne, la diversité des systèmes de partis est également de mise. On rencontre le cas d'une coupure forte entre un parti socialiste anti-soviétique et un parti communiste pro-soviétique, comme en France, celui d'un parti travailliste unifié et longtemps attaché aux nationalisations au Royaume-Uni, et enfin celui de partis sociaux-démocrates précocement convertis à la cogestion en Allemagne et en Suède, où nous retrouverons les mêmes évolutions. Que l'on observe malgré cela les mêmes évolutions d'ensemble mérite des explications cohérentes. En particulier, la similitude des trajectoires invite au scepticisme quant à des hypothèses étroitement nationales. Des explications plus globales, portant en particulier sur les raisons qui ont conduit une part croissante des groupes sociaux défavorisés à se sentir mal représentés, voire parfois abandonnées par la gauche électorale, paraissent a priori plus plausibles. On pense notamment à l'incapacité de la coalition social-démocrate de l'après-guerre, au sens large, à renouveler suffisamment son programme et en particulier à développer des normes de justice convaincantes et adaptées à l'âge de la mondialisation et de la tertiarisation éducative. L'évolution idéologique mondiale, à la suite notamment de l'échec du communisme soviétique et est-européen, semble également avoir contribué de façon décisive à cette évolution, au travers d'une certaine forme de désillusion face à la possibilité même d'une économie juste et d'une réduction réelle et durable des inégalités. S'agissant d'évolutions aussi complexes, il est toutefois impossible d'évacuer a priori de multiples autres facteurs explicatifs de prime abord recevables, et notamment la montée en puissance de nouveaux clivages culturels, raciaux ou migratoires au sein des sociétés postcoloniales. Seul un examen minutieux des différentes trajectoires peut permettre de faire quelques progrès dans la direction d'une meilleure compréhension de ces transformations.